Bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur, celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Vous êtes comme moi, vous avez vu qu'il n'y avait pas de soleil aujourd'hui. Alors que nous avons été gratifiés d'un temps splendide pendant pratiquement toute une semaine. Mais un beau soleil brille dans mon âme. Il éclaire et illumine tout. Probablement dans le vôtre aussi, le cœur. Il y a la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous illumine, qui nous réjouit. Je vais commencer ce moment en ayant une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, mais qui peut-être ne sont pas là pour nous dire que leur épreuve est quelquefois difficile à supporter et douloureuse aussi. Notre Seigneur bien-aimé, nous voulons avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui traversent pour le moment une vallée de larmes, peut-être. Combien de souffrances sont endurées dans ce monde. S'il te plaît, Seigneur, juste de grâce, à l'égard de notre chère sœur Eliane, qui traverse des moments sans aucun doute difficiles, mais aussi douloureux. Qu'il te plaise de rétablir aussi notre frère Daniel, qui a rencontré des circonstances aussi affligeantes. Mais il n'est pas là pour nous dire de ta part ce que tu lui avais confié. Néanmoins, Seigneur, tu peux bénir toutes ces personnes qui traversent l'épreuve dans ce monde. Tant de souffrances, tant de douleurs, tant de larmes sont versées à cause des conséquences dont nous connaissons l'origine. Mais tu es le divin consolateur, notre Père est cela, pour toutes celles et ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais au nom du Seigneur Jésus, nous avons aimé nous abaisser à toi, notre Dieu. Amen. J'ai choisi un thème que vous connaissez certainement par cœur, et ça depuis longtemps. Depuis votre enfance, parce que il s'agit de quelques traits de l'histoire de Daniel. Daniel, dont l'histoire est truffée de champions de la foi. Connaissons non seulement Daniel, mais ses trois compagnons aussi, qui ont vécu des difficultés, des combats inouïs. Alors, en débutant, je tiens donc que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il nous faut être attentifs à ces vérités énoncées et aux exemples qu'au travers de ces serviteurs de Dieu, notre Seigneur bien-aimé, nous a laissé en souvenir. La première épreuve que Daniel a vécue, c'est qu'il a arrêté dans son cœur de ne pas consommer la nourriture que mangeait, ni le vin que buvait, Nebuchadnezzar. Nos manuels scolaires parlent de Nabucodonosor, c'est le même personnage. Pourquoi cela? Il a refusé les médicaments du roi et s'en est ouvert à Arioch, qui était le chef de garde et qui avait la responsabilité de leur distribuer la nourriture habituelle que consommait le roi. Parce qu'ils avaient été sélectionnés comme étant des figures de proue des Juifs en exil. Ils avaient une intelligence et une sagesse hors du commun. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, vous les connaissez depuis l'école du dimanche, n'est-ce pas? Et pourquoi Daniel a-t-il refusé ses mets délicats? Simplement parce que cette nourriture et les breuvages étaient d'abord offerts aux divinités de l'époque, c'est-à-dire aux démons. Est-ce que nous avons un pendant dans le Nouveau Testament? Oui, nous trouvons cela dans le chapitre 15 du livre des Actes. Si vous vous souvenez, ça a été appelé le premier concile de Jérusalem. Nous lisons ceci, Actes 15, versets 28 et 29, « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous, de ne vous imposer autre fardeau, autrement dit, que ce qui est indispensable, que vous vous absteniez de ces prescriptions qui sont nécessaires, s'abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé, autrement dit des animaux étouffés, vous les faites mourir et les consommer ensuite, de la fornication ou de l'inconduite sexuelle, qui est la traduction NBS. Si vous vous gardez de tout cela, vous ferez bien, portez-vous bien. » Voilà les termes du premier concile de Jérusalem. Alors, Daniel a fait cette demande au chef de garde. S'il te plaît, évite-nous les mains du roi. Alors l'intendant ôta leurs mains et leur donna des légumes. Demande de Daniel acceptée. Et Dieu donna, à cause de la décision de Daniel, de la connaissance et de la sagesse, pour toute vision. Écoutez, c'est prémonitoire parce que vous savez ce qui s'est passé par la suite, il y a une vision du roi. Alors Daniel et ses trois amis furent trouvés 10 fois plus intelligents et plus sages que les devins, les augures de tout Babylone. En la seconde année du roi de Nebuchadnezzar fait un rêve et demande que les sages de Babylone, non seulement leur donne l'interprétation du rêve qu'il a rêvé, mais aussi de sa consistance. Alors, les sages de Babylone, les augures et les devins dirent au roi, il n'y a personne qui puisse faire cela. Dire ce que tu as rêvé et donner l'interprétation. Dis-nous le rêve et nous te donnerons l'interprétation. Alors le roi se mit dans une ardente colère et dit, écoutez, c'est pour gagner du temps que vous me dites ça. Si vous ne pouvez pas me donner, vous périrez. L'ordonnance du roi, faire périr tous les sages, tous les devins, tous les augures de Babylone. Alors on vient, Arioch vient chercher Daniel pour le faire périr. Daniel se demande, mais à cause de quoi cette rigueur dans la volonté du roi de nous faire périr, de me faire périr, ainsi que les sages de Babylone. Alors on vint chercher Daniel et ses amis pour les tuer. Daniel et ses compagnons implorèrent l'Éternel de leur accorder son aide. Et l'Éternel révéla à Daniel le songe du roi. D'abord, prier, implorer. Il s'est entouré de ses amis, notre Daniel, pour prier et implorer l'Éternel de leur donner ce qu'ils avaient besoin de savoir concernant la rigueur qu'imposait le roi. Connaître ce qu'il a décidé et donner l'interprétation. Aucun être humain ne peut le faire sinon les dieux qui ne sont pas de ce monde. Ça, c'est la réponse des devins de Babylone. Alors, nous connaissons le sud de la grande statue, cette grande statue qui a donné, dont il a donné son nom, le colosse au pied d'argile. Un petit rappel, il y a 2000 ans, Nebuchadnezzar règne sur le vaste empire babylonien. Il fait un rêve étrange, il voit un géant dont la tête est en or, la poitrine et les bras en argent, le bassin et les cuisses en cuivre, les jambes en fer et les pieds en partie d'argile et de fer. Soudain, une petite pierre, un caillou, vient frapper les pieds de la statue et la renverse. La statue s'effondre. C'est ceci biblique que nous vient l'expression « le colosse au pied d'argile ». Elle évoque une puissance apparemment invulnérable, mais qui édifiée sur une base trop fragile peut s'effondrer d'un jour à l'autre. La pierre qui a traversé le colosse semble résulter du hasard, mais un étrange hasard qui déconcerte les êtres humains et abat leurs prétentions qui conduit à l'humanité. Oui, nous connaissons l'interprétation de ce colosse au pied d'argile. Il s'agit donc d'une tête en or. Daniel révèle à Nebuchadnezzar tuer cette tête en or et les quatre parties du corps de ce colosse concernent en réalité quatre empires qui vont se succéder. L'empire des Mèdes et des Perses ensuite, l'empire d'Alexandre le Grand, le Grec, un bref règne qui a été partagé entre ces quatre généraux, et voilà ce qui s'est réellement passé. Voilà l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar. Il se réjouit et loue l'Éternel qui a révélé à Daniel cette explication exceptionnelle. À la suite de ce récit, qui consiste au refus d'être un compagnon de Daniel, de se présenter ou de se prosterner devant la statue qu'il a dressée, c'est un deuxième épisode. C'est une autre épreuve pour les compagnons de Daniel, qui refusent de se prosterner devant la statue qui a été dressée par l'ordre du roi qui a représenté ce colosse au pied d'argile. Lorsque Nebuchadnezzar apprend que ses quatre compagnons refusent de se prosterner devant la statue qu'il a dressée et devant laquelle vont se prosterner Babylone tout entier, sans exception, il entre dans une rage exceptionnelle. Alors il convoque les trois amis et il leur dit, si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, la sentence est prononcée, vous allez être jetés dans la fournaise de feu ardent. Je me rappelle de votre enfance, lorsque vous étiez à l'école du dimanche, n'est-ce pas, mes amis? Néanmoins, retenons ce que Nebuchadnezzar a dit. Il ordonne aux trois amis de se prosterner, sinon la fournaise, je me répète. Et il dit aux trois amis, si vous ne vous prosternez pas, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui nous délivrera de nos épreuves? Autrement dit, une épreuve exceptionnelle. Qu'est-ce que nous aurions fait si nous étions dans la peau de ces trois amis? Réponse de notre compagnon, de Daniel, il n'est pas nécessaire que nous te répondions à ce sujet. S'il en est comme tu dis, notre Dieu, en qui nous, que nous servons, peut nous délivrer de ta main, ô roi, et de la fournaise de feu ardent. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle audace! Si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Alors le roi, rempli d'une fureur exceptionnelle, ordonna que l'on chauffe la fournaise 7 fois plus, de sorte que ceux qui se sont embarqués des trois amis pour le jeter dans la fournaise, à cause de l'ardeur du feu, ont été tués sur place. Et voilà nos trois amis qui tombent dans la fournaise de feu ardent, chauffés 7 fois plus. Qu'est-ce qu'aperçoit Nebuchadnezzar, un quatrième, qui a l'aspect d'un fils de Dieu? Tiens donc, nos trois amis sont debout. Ceux qui ont jeté les serviteurs de Nebuchadnezzar sont tués à cause de l'ardeur du feu, et les trois amis qui sont tombés dans la fournaise sont debout avec un quatrième, qui a la forme d'un fils de Dieu. Remarquez que la présence du Seigneur annule ou atténue l'ardeur de l'épreuve. La présence de l'Éternel annule ou atténue l'épreuve. de ses amis. Et nous savons que même il n'a pas été trouvé un seul effet, même pas sur leurs cheveux. Quand Nebuchadnezzar a demandé à ses trois amis de sortir de la fournaise, même pas leurs cheveux avaient été brûlés. C'est de la légende, ça, mes amis? Pensez-vous que notre Dieu n'est pas capable d'être présent et de faire en sorte que ses trois amis soient protégés comme lui-même n'est pas par une épreuve aussi exceptionnelle, n'est pas touché? Combien de fois dans notre vie avons-nous rencontré une épreuve où nous disions, Seigneur, quand même, tu es là, tu ne m'abandonnes pas, tu ne nous abandonnes pas, quand l'épreuve devient trop vive, trop apparemment insupportable pour moi? Ce que je vous dis, mes amis, c'est des expériences que nous avons vécues aussi dans les épreuves, que nul humain n'est épargné. Nous passons tous par des épreuves difficiles et douloureuses, mais le Seigneur nous a promis qu'il nous accompagnerait, même si ce sont trop durs. La présence du Seigneur atténue ou enlève les résultats d'une épreuve douloureuse et difficile. Combien de fois on a la connaissance parce que la tendresse du Seigneur n'a jamais manqué auprès de quelqu'un qui avait une épreuve qui nous paraît à nos yeux exceptionnelle. Sommes-nous confiants dans le Seigneur qui soit présent dans tous nos combats? Sommes-nous conscients que le Seigneur soit là dans tous nos combats? Et si par la prière confiante nous nous attendons à lui, le Seigneur nous rendra vainqueurs, même plus que vainqueurs. C'est sa parole qui nous le dit. Même type d'épreuve pour Daniel dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Le livre de Daniel est connu aussi particulièrement pour Daniel qui a été précipité dans la fosse aux lions parce que lui non plus n'a pas voulu obéir à une injonction de Nebuchadnezzar, du roi, qui était la tête d'or et qui se permettait tout. Au point où, s'étant élevé un peu trop haut, le Seigneur l'a fait devenir au rang d'animal. Vous lirez cela si vous désirez continuer la lecture du livre de Daniel. Vous constatez au chapitre 4 que, effectivement, l'Éternel a fait devenir Nebuchadnezzar au rang d'un animal qui broutait de l'herbe. Là aussi, c'est une légende. Moi, je crois que c'est une réalité que notre Seigneur a permis et a provoqué pour nous laisser ces saintes lettres qui, comme nous le fait la vie, est la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui ont voulu que Daniel, parce qu'il priait trois fois par jour, étant tourné vers Jérusalem, alors qu'un décret avait été promulgué selon lequel personne ne pouvait adresser de prière sinon au roi. Ces méchants babyloniens qui avaient une jalousie féroce contre Daniel et ses compagnons que le roi avait élevé à un rang supérieur au leur, ils ont promulgué une loi selon laquelle celui qui se prosternerait ou qui priait quelqu'un d'autre pendant 30 jours, or s'adresser au roi Nebuchadnezzar, serait jeté dans la fosse aux lions. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? S'attaquer au peuple de Dieu, nous avons même encore des exemples, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, maintenant, dans ce qui se passe dans le peuple du Seigneur, mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas non plus et on ne fait pas tort à ce peuple choisi par l'Éternel. Vous connaissez la suite? Que celles et ceux qui avaient fait promulguer cette loi qui donnait le sort à Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions, nous savons bien que l'Éternel l'a protégé. Il a fermé la gueule des lions, nous dit la Bible, pour qu'il ne touche pas son serviteur Daniel. Pendant toute une nuit, Nébuchadnezzar n'a pas pu dormir à cause du fait qu'il avait été forcé de jeter dans la fosse au lion ce serviteur qu'il aimait beaucoup quand même. Par contre, au sortir de cette épreuve de Daniel, ceux qui ont fomenté cette loi terrible de jeter dans la fosse un Daniel qui ne méritait pas ce sort-là, ils n'étaient pas encore arrivés dans le fond de la fosse au lion, qu'ils étaient dévorés, hommes, femmes, enfants. Ne vous inventez rien, c'est bien la parole de Dieu qui nous le dit, n'est-ce pas? Alors, Daniel, dans un des chapitres suivants, adresse une fervente prière à l'Éternel. Et par sa piété, Daniel a été appelé à bien-aimer. Vous savez que vous êtes vous aussi les bien-aimés du Seigneur? Est-ce que nous savons que nous sommes des bien-aimés de Dieu? Des privilégiés de sa grâce infinie? Nous savons à cause de qui ou à cause de quoi? C'est le don, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous apporte cette merveilleuse délivrance, cette culpabilité que je ne pouvais plus supporter. Et j'ai dit au Seigneur un jour, « Seigneur, je ne peux plus supporter ça, s'il te plaît, pardonne-moi. » Instantanément, le Seigneur m'a donné la conscience qu'il m'avait tout pardonné. Probablement qu'ici aussi, beaucoup de mes frères et sœurs ont connu cette expérience d'être en Christ, une nouvelle création, un être pardonné, un être heureux, un être qui marcherait dans ce monde plein de joie jusqu'à aujourd'hui. Mais vous connaissez mon âge, vous savez que l'Éternel m'a pardonné tous les jours de mon existence jusqu'à ce jour. Béni soit-il. Mais cette prière de Daniel est intéressante à examiner parce qu'il se met comme étant responsable, co-responsable du fait que le Seigneur a permis l'exil de son peuple. Au chapitre 8, chapitre 9, verset 13, « Nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu afin de le venir de nos iniquités. Nous n'avons pas écouté la voix. Nous avons péché. Nous avons agi méchamment. » Il se met responsable alors que finalement, ce n'est pas le peuple. Ce sont par les désobéissances du peuple qui ont amené cet exil vers Babylone. Ce ne sont pas les péchés de ce peuple rebelle à l'Éternel qui ont provoqué le fait que l'Éternel a donné l'ordre à Nébuchadnezzar de venir et de faire la guerre à ce peuple et d'emmener en exil une bonne partie de ce peuple-là, dont Daniel, pas responsable. Parce que, comme il est à Babylone, on peut supposer qu'il était aussi à Jérusalem, un précieux serviteur de l'Éternel. Il nous a dit dans la Bible, au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Et nous allons trouver dans le livre de Daniel plusieurs des prophéties dont nous aimerions peut-être parler ensemble à une occasion ou l'autre. Et la prophétie qui est donnée au chapitre 9, c'est celle-ci. Dans ce même chapitre, au verset 25, et c'est à partir de cela que l'on peut calculer la venue du Fils de Dieu et le fait que le Seigneur a été retranché. Nous lisons. Et sachez comprendre, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et selon des temps de trouble, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, autrement dit, n'aura pas de successeur. Autrement dit,
Voilà le texte
qui nous permet de calculer à partir du moment où Néhémie dit au roi, il était des chansons du roi Assuérus, vous lirez ça dans le premier chapitre du livre de Néhémie, qu'il était triste en servant le vin au roi, ce qui était excessivement interdit. On ne pouvait pas être autrement que joyeux devant le roi que l'on servait. Tu es triste, dit Assuérus à Néhémie. Comment ne le serais-je pas? Après avoir fait une prière, qu'on appelle une prière flèche, à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que tu peux m'aider dans ces circonstances-là? La réponse de Néhémie est, à Assuérus est, est-ce que je ne serai pas triste lorsque je pense que Jérusalem est incendiée, qu'il n'y a que des monceaux de ruines et que mon peuple est dispersé? Ne serais-je pas triste? Mon seul désir, ce serait de rebâtir Jérusalem. Réponse du roi, que te faut-il? Combien de bois? Combien de matériaux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Imaginez la réponse du roi à Assuérus, à Néhémie. Et c'est à ce moment-là qu'il monte à Jérusalem, qu'il encourage ses compagnons à rebâtir Jérusalem. Et vous savez dans quelles conditions? Avec une épée dans une main et une trouelle dans l'autre. Parce que les ennemis les poursuivent jusque même cet endroit-là. Je ne vous apprends rien, mes amis, vous connaissez bien certainement ces choses. Et dès ce moment-là, c'est la première partie de la révélation que l'Éternel fait à Daniel. Pendant 7 années, ils vont rebâtir Jérusalem. Et ensuite, il va se passer 62 semaines. Et que ce que le Messie nous dit, que le Messie sera le prince, sera le tranché et non la lien. Autrement dit, on s'est calculé qu'il y aura 173 880 jours. 173 000, sinon ce fait de Roger Lévy qui l'a calculé, qui vont se passer depuis le moment où l'Éternel s'est adressé à Néhémie et celui où le Seigneur périra. Et ce texte-là vous montre les dates auxquelles tout cela s'est passé. C'est de ce bouquin, la Bible absolument crédible de notre frère Roger Lévy que j'ai tiré ce texte-là. J'ai un autre bouquin que je vais vous montrer, celui-là, Temps de la fin. Vivons-nous vraiment au temps de la fin? Et il donne la connaissance de plus de 175 prophéties qui ont été accomplies. Je vais vous laisser voir avec quel soin et avec quelle précision notre frère a recensé les 177, puisqu'il dit plus de 175, c'est un chiffre plus rond à retenir. 177 prophéties qui se sont accomplies. Et la conclusion, elle nous concerne, chers amis, parce que la conclusion de ce bouquin, c'est que toutes les prophéties qui ont été accomplies dans la Bible, annoncées dans la Bible, sont closes. Autrement dit, j'ai déjà fait ce geste-là, de dire que tout ceci de la Bible est accompli. Il ne reste plus que ça. L'Apocalypse. Autrement dit, la seule prophétie qui suit celles qui ont été annoncées là, c'est le retour du Seigneur Jésus. Et nous l'attendons. Raison pour laquelle le Seigneur permet qu'il y ait des signes qui ne nous échappent pas et qui nous montrent que le Seigneur est proche. Combien j'aimerais, chers amis, que nous puissions en parler parce que il s'agit des 70 semaines de Daniel. Il y en a 69, c'est-à-dire 62 plus 7, qui ont été accomplis. Et le Seigneur a dit à Daniel, sème cette dernière prophétie, parce qu'elle est pour un temps futur. Et il a fallu 2000 ans pour que le Seigneur patiente afin de nous sauver, vous et moi, Et jusqu'à aujourd'hui, il offre encore sa grâce à quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse à parler et nous donner de l'attente en paix. J'en ai parlé une fois à Jean-Luc. Il m'a dit, attention, l'eschatologie c'est quelque chose de particulier. Certains croient une chose, certains croient une autre. Et il est bien écrit que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Je me suis interrogé à ce sujet-là et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, peut-être que le Seigneur revient aujourd'hui. Alors je l'attends depuis ce moment-là, chaque jour, en me disant, aujourd'hui, le Seigneur peut venir. Et si demain est accordé, je dirai, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt, si tu veux venir, viens. Je t'attends. Et accorde-moi la grâce de tenir le bon jusqu'à la fin. Parce que tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont des mots un peu particuliers dont il nous faudrait quand même avoir une certaine explication. Parce que quand on est sauvé, est-ce qu'on n'est pas pour l'éternité? Vous êtes sauvé par sa grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais notre traduction dit, vous n'y êtes pour rien. Le Seigneur vous a sauvé, vous n'y êtes pour rien. C'est un don de Dieu. Mais c'est pour l'éternité que le Seigneur nous a sauvés, pour ceux qui croient jusqu'à la fin. J'aurais beaucoup de choses à vous dire à cet égard, mais nous réserverons pour peut-être une autre fois, pour ceux qui, vous, qui veulent le savoir en particulier, je veux leur faire connaître qu'il y a des bien-aimés qui craignent ne pas être fidèles jusqu'à la fin et que le Seigneur le prie avant. Que le Seigneur soit béni et qu'il veuille bénir sa parole et qu'il veuille nous donner la patience de l'attendre en paix chaque jour à la gloire de Dieu. Amen.